Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Éric Romeluer, qui vient d'écrire « Le bouddhisme n'existe pas » aux éditions du Seuil. Donc nous sommes extrêmement contents qu'il soit là. Pour une première raison qui est qu'il est toujours extrêmement intéressant de parler de livres traitant du bouddhisme parce qu'on n'en a pas forcément toujours l'occasion. Et c'est une religion, une spiritualité, on précisera ça peut-être un peu plus tard, assez méconnue encore en France, donc c'est toujours extrêmement bien d'en parler. Et une deuxième chose, parce que justement, le livre d'Éric Romeluer remplit cette mission à merveille. Ce n'est pas un livre d'initiation au bouddhisme, mais par contre, ce qui est très intéressant, et on aura le temps évidemment d'en parler, c'est qu'il va être question ce soir de l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle aussi le Dharma, de ce que ça peut comporter en complexité théologique, en exigence, en éléments que l'on ignore souvent en France. On a une idée comme ça un peu, pas toujours, mais parfois préconçue du bouddhisme. Et ça va être intéressant ce soir, car nous allons avoir l'occasion de préciser un petit peu tout ça. Et je précise d'ailleurs aussi que Éric Romeluer enseigne le zen depuis une quinzaine d'années. Et semble-t-il, on va avoir droit un petit peu plus tard, à la fin de cette conférence, à une séance de méditation, mais je n'en dirai pas plus. Je vais laisser le soin à Éric Romeluer de nous en parler. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute.
Donc, merci beaucoup. Je suis très content donc, de venir à Bordeaux ce soir et surtout d'être accueilli par la librairie Mola. J'ai proposé à la librairie de faire deux choses. Bah, c'est d'abord celle qu'il me demandait de faire, c'est-à-dire de faire une intervention orale à propos du bouddhisme ou autour de mes livres. Mais je trouvais aussi intéressant, pour ceux qui le souhaiteront, de faire un moment de méditation. Ou plus exactement, un moment de sensibilisation, de toucher un espace intérieur tel que les bouddhistes le font. Donc, si vous le désirez, si vous avez le temps, nous pourrons le faire. Donc là, je vais parler, on va dire, environ une petite, de trois quarts d'heure environ, et à partir de 7 heures, nous aurons, je vais dire, environ une demi-heure. Voilà, donc j'espère que vous resterez toutes et tous. Pour me présenter, voilà, donc je m'appelle Éric Romeluer, on m'invite parce que j'écris des livres, mais pour moi, c'est un peu, je ne veux pas dire accessoire, bien que ça occupe beaucoup de mon temps, de mon énergie, de mon envie aussi de faire partager cette tradition. Mais plus profondément, bah, c'est le bouddhisme, c'est ma vie. Je suis un moine bouddhiste. J'ai commencé cet itinéraire très jeune. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51 ans. Et c'est toute ma vie. Et pour moi, c'est merveilleux. Donc, si je peux faire toucher un peu de cet espace, j'en serais très content. Et les bouddhistes, bah, pour se présenter, ils disent pas qu'ils sont des bouddhistes, ils disent qu'ils sont les enfants du Bouddha. Donc, je me présenterai comme cela, comme un enfant du Bouddha. Donc, j'ai écrit ce livre, voilà, que certains d'entre vous ont entre les mains, c'est déjà mon cinquième livre, je crois. Il fait plutôt suite au précédent, qui était également publié aux éditions du Seuil, qui s'appelle « Les Bouddhas naissent dans le feu ». Et « Les Bouddhas naissent dans le feu » était un livre qui tournait ou qui explorait plus particulièrement la tradition du bouddhisme zen, puisque moi-même je suis un pratiquant, un enseignant de cette tradition qui est une école du bouddhisme japonais. Et c'est, voilà, tout mon itinéraire s'est fait à travers cette école, et ce livre était un essai de présenter d'une manière audible cette tradition. Aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment dire, comment parler ou comment enseigner le bouddhisme à des Occidentaux, parce que notre culture, nos situations, nos modes d'être sont quand même très différents de l'Orient, et surtout de l'Orient tel qu'il était pendant des siècles. Donc aujourd'hui, parler du bouddhisme demande un effort de traduction, de pédagogie. Donc c'est ça qui a prévalu. Et puis ce dernier livre, j'ai voulu un peu élargir les perspectives, non plus de la tradition zen, puisqu'il n'y a que très très peu de références sur la tradition zen, mais vraiment essayer de toucher ce qu'on appelle, chez les bouddhistes, on appelle cela le dharma, puisque le mot bouddhisme est un mot qui est de notre culture, un mot qui a été inventé par tout d'abord par les premiers missionnaires, après ce qu'on a appelé des bouddhologues, c'est-à-dire des gens qui s'intéressaient à comprendre des traditions, et à un certain moment, au XVIIIe siècle, on a perçu, après beaucoup d'efforts, que malgré des différences, que ce soit au Tibet, au Japon, en Thaïlande, il y avait quelque chose de commun, puisqu'ils révéraient un certain bouddhu. À l'époque, on disait, au XVIIIe siècle, un certain bouddhu. Donc le bouddhisme est né de cette application à l'enseignement de Monsieur Bouddhu, on pourrait dire. Les bouddhistes n'utilisent pas ce terme, ils utilisent un autre terme qui est un mot sanskrit, un mot difficile à traduire. J'en dirai peut-être un petit peu plus tout au cours de cette causerie, qui est le dharma. Et ce qui m'a intéressé, c'est dans ce livre, c'est essayer de vraiment cerner ce qu'on pourrait appeler, d'une part, le dharma, c'est-à-dire cet enseignement du Bouddha tel qu'il s'est propagé au fil des siècles, au fil des cultures, des générations. Et puis, en même temps, essayer de lever un certain nombre d'incompréhensions ou de difficultés inhérentes au fait que nous pensons qu'il existe une tradition en Orient qui s'appelle le bouddhisme. Et donc le titre que certains trouvent provocateur, pour moi il n'est pas provocateur, c'est « Le bouddhisme n'existe pas ». Pourquoi ce titre Alors je ne sais pas pour chacun d'entre vous ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas de ces traditions, mais naturellement, quand on va parler de bouddhisme, on va, et c'est très naturel, appliquer ou poser un certain nombre de catégories qui nous sont propres. Et donc le bouddhisme est, on pourrait dire, identifié dans le paysage mondial maintenant comme étant une tradition religieuse ou tout simplement une religion. Et les religions, nous connaissons. Les religions, nous avons ici plus particulièrement le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, d'autres traditions, judaïsme, islam. Et ces traditions ont modelé une compréhension du religieux. Et une difficulté, c'est, je vois qu'on plaque assez facilement un certain nombre de catégories sur le bouddhisme où il devrait, parce qu'on pense que c'est universel, il devrait avoir des choses ou des catégories ou des structures similaires aux traditions que nous connaissons. Pour beaucoup d'entre nous, une religion ou un système spirituel ou même des traditions philosophiques proposent une explication. Ils expliquent ce qu'est le monde ou ce qu'il n'est pas. Pour beaucoup aussi de traditions religieuses, il y a une dimension législative, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et naturellement, on peut penser que le bouddhisme a ces deux catégories, qu'il soit à la fois un système d'explication du monde et qu'il ait des propositions ou des commandements ou des indications sur ce que nous devrions faire. Avec derrière, dans ces deux idées, c'est que finalement le bouddhisme serait un ensemble doctrinal ou un système de pensée. Mais par exemple, quand on s'adresse au bouddhisme, on peut par exemple dire « Ah ben oui, mais le Bouddha, qu'est-ce qu'il dit sur l'origine du monde ? Qu'est-ce qu'il y avait au tout début ?» Les bouddhistes disent, ils ne disent rien. C'est même pas qu'ils vont dire il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. Ils ne répondront rien. Cette question n'est jamais apparue. Donc il n'y a pas de réponse. Par exemple sur la dimension législative, par exemple, bon, moi j'écris, j'interviens dans un certain nombre de, soit des émissions de télévision, soit des magazines, et un jour un journaliste m'appelle en me disant « Ah, nous voudrions connaître la position des bouddhistes sur l'avortement. » Parce que, par principe, on pense que les bouddhistes ont quelque chose à dire sur l'avortement. Ben, les bouddhistes n'ont rien à dire sur l'avortement. Alors, si effectivement on est dans la dimension de dire le bouddhisme c'est un système explicatif ou un système législatif, quand on ne répond pas à la question quelle est l'origine du monde ou quelle est la position sur l'avortement, on va dire bah, y a quelque chose qui manque alors chez vous, il y a un déficit. Et en fait, il n'y a pas de déficit. Et le projet aussi de ce livre, c'est essayer de vraiment tenter de déporter ou de décentrer le lecteur pour le faire entrer dans un monde qui a sa propre autonomie. Par exemple, et ça je crois que c'est un des points qui me paraît un point essentiel, je suppose qu'ici vient régulièrement des philosophes aussi qui viennent parler à la librairie Mola, même sans s'en rendre compte, même si nous ne faisons pas de philosophie, même si nous ne sommes pas religieux, notre structure mentale a été façonnée par des siècles et des millénaires de pensée. Et les deux grands axes de la pensée occidentale, bah, c'est les traditions judéo-chrétiennes et les traditions philosophiques avec les Grecs à leur origine. Et chez les Grecs, il y a quelque chose de très important et ça conditionne notre compréhension, notre rapport au monde. Nous pensons, ou je pense en tant qu'occidental, qu'il y a une vérité. Il y a des choses vraies. Et ça, peut-être pour ça, ça va vous sembler naturel. Pour chacun d'entre nous, oui, il y a des choses vraies, puis il y a des choses qui ne sont pas vraies, on va dire fausses, fictives. Mais la dimension de la véracité, avec son opposé, c'est-à-dire la fiction, ben c'est comme chez les Grecs, avec Platon, je crois, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de philo. Et ça a modelé, il y a une réflexion sur notre monde. Nous avons, en tant qu'occidentaux, un rapport métaphysique au monde. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a une vérité derrière les apparences. Si quelque chose n'est pas immédiat, quelque chose est derrière. Donc une vérité qui est un fondement est au cœur du monde réel. Ça, bon, c'est déjà un peu philo, je ne vais pas rentrer un peu plus loin, mais vous connaissez tous au moins ces notions de véracité opposées à la fiction. Donc il y a même fait, au cours de l'histoire de la philosophie, il y a fait beaucoup de réflexions hein, sur ces notions qui aujourd'hui bifurquent un peu dans le champ philosophique occidental, notamment le champ philosophique francophone. Bon, ça, je ne vais pas rentrer. Mais, par exemple, la notion de vérité n'existe absolument pas dans les traditions bouddhistes. Nous avons un tout autre rapport aux choses. Et ça, c'est déjà dire ça, ça, alors ça peut commencer peut-être à vous déstabiliser, mais c'est ça que je voudrais justement vous faire, c'est un peu vous déstabiliser ce soir, de dire que ces traditions ne recherchent pas une vérité, et encore moins des vérités dernières. Quel est le projet des traditions bouddhistes ? Alors là non plus, je ne vais pas rentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que les traditions bouddhistes, c'est très très vaste. Le bouddhisme, ça commence en Inde au 3e-4e siècle avant Jésus-Christ, ça s'est développé d'une façon très importante, en Inde, tout d'abord, et puis ça a disparu de l'Inde pour deux raisons. Une raison interne, c'est-à-dire la critique et la prédominance d'une certaine forme du brahmanisme, qui était très critique du bouddhisme, qui a miné un peu de l'intérieur. Et il y a eu quelque chose aussi, un événement extérieur, ça a été les invasions musulmanes qui n'ont pas été déterminantes, mais qui ont fini finalement qui ont contribué à faire disparaître totalement le bouddhisme de l'Inde. Et donc le bouddhisme s'est continué dans tous les pays de l'Asie, que ce soit la sphère d'influence chinoise, que ce soit la sphère d'influence du sud-est asiatique, ou que ce soit la sphère d'influence plutôt tibétaine ou indo-himalayenne. Ces traditions ont en commun non pas de vous proposer des vérités, non pas de vous proposer des croyances, non pas de vous proposer des doctrines, mais de voir, au contraire, comment et pourquoi des croyances, des préjugés, des conceptions structurent votre rapport au monde. Et là, par exemple, si peut-être certains d'entre vous connaissent un peu la philosophie, quelque chose de très très proche du bouddhisme, c'est dans la tradition philosophique occidentale, c'est la phénoménologie, qui est un courant qui s'est constitué depuis un siècle et demi, à comprendre comment l'esprit perçoit les choses telles qu'elles apparaissent. Ça, c'est le projet même de la phénoménologie, un phénomène. Le phénomène, en grec, c'est ce qui apparaît. Pourquoi quelque chose apparaît à la conscience ? Donc ça, il y a un projet similaire dans ces traditions bouddhistes, mais avec quelque chose de un peu plus vaste. C'est pas simplement comment les choses apparaissent à la conscience, mais comment elles structurent, comment ce qui apparaît va créer des représentations, des conceptions, des préjugés, et comment tout ça va structurer le monde, et comment notre rapport au monde va être plus ou moins, alors on pourrait dire sain, S-A-I-N, ou plus ou moins souffrant. Car un des points importants de cette tradition, c'est que nos représentations, nos croyances, nos préjugés sont animés par des peurs ou des angoisses. Donc ça, il y a vraiment un rapport dans cette tradition à aller par-delà vraiment tous nos fonctionnements pour écouter ce qui se passe en nous. Et pas simplement écouter au sens de « j'ai des pensées », mais quels sont les mécanismes qui font que ça va bien ou ça va pas bien dans notre vie. Alors c'est un peu différent, voilà, il y a aussi des grands débats sur comment situer ces traditions bouddhistes, parce que justement, dès qu'on commence à déplacer ou à un peu se perdre en disant, bah, par exemple avec un titre pareil, le bouddhisme n'existe pas, on veut le raccorder à quelque chose que l'on connaît, justement, parce que ça c'est naturel, on a besoin de repères. Et donc, une des possibilités, ce serait de dire, ah bah oui, vous nous parlez de phénoménologie, donc c'est effectivement, ça pourrait être quelque chose d'assez similaire à ce qu'on pourrait appeler les sciences humaines, ou même si on réduit un peu plus à la philosophie. Hein, qui est la philosophie, c'est aussi c'est un essai de compréhension de soi, un essai de compréhension du monde. Alors la philosophie a aussi une longue histoire. Hein, je peux faire un peu de pub puisqu'on est dans une librairie. Hein, donc vous pouvez lire les livres de Pirado. Tu connais
Je conseille souvent.
Voilà, Pirado,
oui.
qui explique vraiment comme la philosophie qui est née chez les Grecs, c'est aussi un art de vivre. C'est un essai vraiment de se comprendre, mais de se comprendre pour vivre. Et parfois, alors je crois que c'est resté hein, l'axe majeur de la pensée philosophique, mais parfois, et c'est aussi peut-être un travers ou une façon d'interpréter aujourd'hui la philosophie, ça reste une pensée. Mais la pensée n'est intéressante que si elle nous permet d'être encore mieux en contact avec le monde et surtout avec notre vie. Mais là, je crois qu'il y a une différence par rapport à la philosophie ou aux sciences humaines, c'est que le bouddhisme veut éclairer, ou ces traditions bouddhistes veulent éclairer un certain nombre de traits qui sont inaperçus dans nos fonctionnements. Bouddhisme, ça vient, c'est pas parti de... Il y a le isme qui était facile à trouver, mais il y avait le Bouddha. Hein. Bouddha, c'est un qualificatif que l'on donne, alors pas simplement au Bouddha Shakyamuni, qui est donc le, on pourrait dire, celui que l'on dit être le fondateur de ces traditions, mais dans les traditions bouddhistes, il y a des multitudes de Bouddhas. Il y a des Bouddhas plus mythiques qui habiteraient dans d'autres univers, ou des Bouddhas qui sont peut-être plus présents. Par exemple, dans ma tradition bouddhiste, le Zen, vous êtes ici tous des Bouddhas. C'est ce que nous disons. Donc, bon, il faut expliquer ce que ça veut dire. Mais Bouddha, c'est un terme sanskrit. Ça veut dire l'éveillé. L'éveillé. Alors même, le Bouddha, ça peut vouloir dire l'éveillé ou l'éveilleur. Donc, à la fois le sens actif et le sens passif. Donc, il s'éveille. Alors, à quoi il s'éveille ? Hein, c'est aussi l'Inde à cette manière d'envisager le mode de fonctionnement des êtres en disant qu'il y a des ignorances. Dans le bouddhisme, on utilisera plus particulièrement le terme d'illusion. Donc des voiles qui empêchent de voir. Et pour plus particulièrement pour le bouddhisme, c'est vraiment au cœur même de ce que nous ne voyons pas, c'est nos peurs. Pas simplement les peurs que nous connaissons peut-être au quotidien, ou qui pourraient être des phobies ou des difficultés, mais vraiment des peurs beaucoup plus profondes, des peurs qui d'une certaine manière ne nous appartiennent pas, parce qu'il y a des peurs qui sont liées à notre histoire psychologique. Telle personne aura peur de traverser la rue, telle personne aura peur de se mettre en couple. Ça, c'est des peurs qui sont liées à l'histoire psychologique de tout un chacun, et ce n'est pas les mêmes peurs pour une personne et pour une autre. Mais là, ces traditions veulent percer, atteindre des peurs qui sont communes à tout à chacun. Une grande peur que nous connaissons tous, c'est la peur de la mort. Nous allons tous mourir. Alors certains peut-être diront, je n'ai pas peur de la mort. Mais ces traditions disent, peut-être si, nous avons peur. Simplement, pour vivre quotidien, nous avons besoin d'oublier, de dénier que demain, nous pouvons mourir. Comment pourrions-nous agir demain si demain nous pouvions mourir? Donc il y a cet arrière-fond que nous connaissons tous, mais ça, voilà, on avance comme ça. Et le bouddhisme, c'est pas tellement sur la peur de la mort, qui est celle d'un futur, parce que la mort, ça nous concerne pour un peu plus tard que l'instant présent. C'est peut-être tout à l'heure, c'est peut-être en sortant, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 100 ans, bientôt, avec les progrès de la médecine. Mais pour les bouddhistes, c'est encore plus immédiat, c'est la peur de ce qui se passe à chaque instant. À chaque instant, tout change, y compris nous. Et que ce mouvement de où chaque... on pourrait dire chaque molécule de notre être ou chaque pensée se dissout, se disparaît. Pour vivre, tout simplement, il faut occulter cela. Et ça, le bouddhisme dit, là, il y a une peur très profonde qu'on est obligé de masquer et qui, finalement, va susciter un certain nombre de comportements, un certain nombre d'action tout au long de notre vie pour faire en sorte que tout ça disparaisse de notre mémoire. Mais ça, le bouddhisme dit, ça crée une sorte d'angoisse inaperçue. On ne la voit jamais. Mais cette angoisse va ressurgir à certains moments clés de notre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être la mort d'un proche, ou d'un seul coup, ce que nous avons oublié, c'est-à-dire la question fondamentale, la question vraiment du sens de la vie, d'un seul coup, on l'attrape en pleine figure. Et ce qui nous conduit tous les jours, ce que je vais faire demain, mon travail, mon rapport avec un tel ou un tel, tout ça devient secondaire. Et l'évidence même de quelque chose qui nous frappe, et tout à chacun a été sans doute confronté parfois à ces moments difficiles, on s'en rend compte, là, quelque chose nous parle. Et cette angoisse, alors elle se révèle souvent d'une manière angoissante, justement, avec de la détresse, de la souffrance. Voilà, elle se réveille là. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très existentiel. Donc, on est loin d'une réflexion de science humaine. C'est vraiment les choses qui nous concernent tous. Oui, en tout cas au plus profond de nos fonctionnements. C'est aussi, alors parfois le bouddhisme on dit c'est une psychologie, mais c'est pas exactement une psychologie au sens d'une thérapeutique. Parce que justement ça s'adresse à ce qui est le commun à tout à chacun par-delà nos spécificités propres ou notre histoire psychologique. Par exemple, lorsqu'on va voir un thérapeute, on y va parce qu'on a un symptôme. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, telle ou telle chose. Et on travaille. Et on arrête. En tout cas, c'est comme ça que, on va dire, d'une manière idéale, se fait une thérapie. C'est quand le symptôme a disparu ou que le symptôme ne pose plus problème. Donc là, on est dans quelque chose de personnel. Et là, c'est différent, c'est vraiment de toucher les questions les plus vitales, celles de la vie, celles de la mort, et ce travail d'approcher ces questions, il n'y a pas de fin. Un symptôme, on peut le lever, mais la question de notre mort, on ne le levera qu'au moment de notre mort. Donc il y a un quelque chose d'assez différent. Donc c'est pas non plus du côté de la psychologie vraiment qu'il faut. Alors on peut faire des ponts, ça peut être aussi intéressant, mais ce n'est pas réductible à une psychologie. Alors il y a effectivement aussi la question de la religion. Souvent on met maintenant le bouddhisme dans la dimension religieuse. Et aujourd'hui, par exemple, le bouddhisme institutionnalisé en France, par exemple, se présente comme une religion. Vous avez donc les émissions religieuses du dimanche matin. Il y a un quart d'heure réservé à la religion bouddhiste. Alors, moi, je trouve que c'est effectivement, il y a quelque chose d'assez similaire, puisqu'on est sur quelque chose de particulier aux religions, qui est la transcendance. Et je pense que ces traditions bouddhistes partagent un rapport au transcendant. Le transcendant, comment le résumer, ça serait de dire il existe quelque chose de plus grand que moi. Voilà, ça serait peut-être une définition extrêmement simple dans laquelle toutes les traditions religieuses pourraient se retrouver. Il existe quelque chose de plus grand et j'ai vocation en tant que homme, femme de religion, de spiritualité, à me mettre à l'écoute et à m'ouvrir à cet espace. Mais en même temps, les traditions bouddhistes ont quelque chose de très différent aussi des religions que nous connaissons. Puisque les traditions religieuses, celles que nous connaissons, se fondent toujours sur le fait qu'il y ait deux réalités ou deux mondes. Il y a le monde que nous connaissons et il y a un autre monde qui est derrière, au-delà, dans le futur. Christianisme, islam, vous connaissez. Et une vie religieuse ou une vie spirituelle, c'est l'annonce de cet autre monde, cet autre royaume, et de s'y préparer. Pour les traditions chrétiennes, musulmanes, juives, on est vraiment dans préparer, se préparer pour un autre monde. Le bouddhisme n'est pas du tout fondé sur cela. Il n'y a pas d'autre monde. Et ça, c'est quelque chose de très original, en tout cas pour une religion. Et il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que la manière dont nous vivons ce monde. Est-ce que nous le vivons sous un mode d'angoisse ou est-ce que nous le vivons sur un mode libéré? Et c'est ça, en fait, le bouddhisme. C'est comment faire pour que notre rapport au monde soit un rapport libre, libéré, non angoissé. Ça, je crois que c'est une définition que l'on pourrait appliquer au bouddhisme. Et donc, il n'y a, et ça c'est ce que j'ai voulu un peu dire dans ce livre, le bouddhisme ne va pas vous expliquer ce qu'est le monde. Il ne va pas vous dire comment vous devez vous comporter dans telle ou telle situation, comme s'il y avait une sorte d'appareil législatif qui viendrait s'appliquer à tel ou tel moment de votre vie. Non, ça va être de développer un certain nombre d'attitudes, de dispositions, et de faire en sorte que on puisse s'ouvrir à un rapport, on pourrait dire déjà non-violent, libre, équanime, il y a plein de mots, amoureux. Hein, je pense aussi que le bouddhisme est une pratique. Alors on dit, quand on lit les livres sur le bouddhisme, on parle de l'amour et la compassion. Donc ça, je trouve que c'est encore un peu abstrait. Voilà, donc le bouddhisme, c'est vraiment travailler vraiment sur autre chose. Et par exemple, si on doit le mieux le présenter par rapport à ce que je disais, doctrine, système, etc. Il y a trois choses. Il y a des discours. Hein, les bouddhistes parlent. Je parle. Et si vous lisez des livres, vous allez voir qu'ils ont beaucoup parlé. Et notamment, il y a ce qu'on appelle des textes sacrés. Et les traditions bouddhistes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Il y a des milliers d'ouvrages qui ont été écrits. Mais ces livres sont toujours à partir d'idées. Et en fait, leur propos, c'est de lancer des idées et que ces idées puissent mûrir à l'intérieur de vous. Par exemple, les bouddhistes parlent d'amour. Mais finalement, ils ne vont pas vous dire comment vous devez aimer. D'ailleurs, on ne peut pas dire comment on aime. Mais c'est un peu la même chose. Vous allez au cinéma, vous allez voir des films d'amour. Vous y allez parce que ça vous touche, un film d'amour. Vous le regardez, et s'il est réussi, vous pleurez, vous êtes touché. Et même au-delà, quelque chose se transforme en vous. Et on pourrait dire les discours bouddhistes, ou les textes bouddhistes, donc ne vous proposent pas des doctrines, mais vous proposent la même chose. C'est des formes narratives qui ont pour but d'activer un certain nombre de sentiments qui sont là en vous et que vous pouvez libérer. Et en ce sens, les traditions bouddhistes n'inventent rien. Tout ce qu'elles vont vous dire, c'est en chacun d'entre vous, il y a un certain nombre de qualités. Les qualités sont l'attention, en un seul mot, hein, l'apostrophe, l'attention, la tendresse, l'amour, la joie. Tout ça, vous connaissez. Il y a beaucoup de moments où vous êtes joyeux, amoureux, tendre. Mais il y a des moments où vous ne l'êtes pas toujours. Et il y a quelque chose qui se bouscule en vous. Et en fait, c'est ça, c'est d'éclairer un certain nombre de dispositions et de les cultiver et de trouver un certain mode de fonctionnement où tout ça va prendre beaucoup plus de place. Tout à l'heure, je vous parlais donc des bouddhas, donc les éveillés. Et on pourrait dire un éveillé, c'est quelqu'un qui aurait développé au maximum ses qualités, la tendresse, la joie, qui n'est plus obstrué par des comportements qui brisent ou qui enserrent ces moments de joie et de tendresse. Et donc, il y a aussi des dispositif. Hein, moi, j'aime beaucoup utiliser ce terme de dispositif qui va directement, qui touche aussi notre sensibilité de parler de dispositif. Le bouddhisme va proposer des méthodes pour développer un certain nombre de qualités. Hein, donc, plutôt de dire il y a des comportements qui sont fondés sur la peur, sur l'angoisse. Donc, comment entendre ça? Comment révéler ça? Et d'une autre manière, par une sorte d'autre éclairage, de focaliser, de mettre l'attention sur d'autres sentiments, d'autres dispositions. Hein, et aussi le terme de disposition, c'est intéressant. C'est une disposition, c'est à la fois un sentiment intérieur, mais c'est aussi un moyen d'agir. Et donc le bouddhisme, ce n'est pas simplement développer des... L'amour au sens d'une manière abstraite, c'est aussi de vivre cet amour.
Je vais parler.
Ah oui, j'ai un coach. C'est vivre aussi cet amour et de le mettre en pratique. Hein, donc je trouve que ça c'est intéressant de dire, il y a des discours, mais qui sont plutôt des idées forces, des dispositions et des dispositifs. Et donc, un des dispositifs, hein, c'est aussi ça aussi ce qui va me permettre de faire le lien avec ce qui va se passer tout à l'heure, c'est la méditation. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent, connaissent ou ont expérimenté. Alors, il est 7h moins 2, donc je vous invite à rester. Donc, je vous propose 2-3 minutes de battement si des gens veulent partir pour les raisons qu'ils le souhaitent. Et les personnes qui... Les autres restent. Je vous propose donc de faire... Voilà, je vais vous expliquer après ce que je compte faire. Voilà. Voilà. Donc, on est dans une librairie qui vend des livres. Donc, ils ont apporté des livres. Donc, si vous voulez, je peux même en dédicacer quelques-uns. Ça fait un peu...
Pour j'aime ceux pas qui trop, souhaitent partir mais c'est...
Voilà. Non, mais mon éditeur sera content.
Voilà, pour ceux qui souhaitent partir maintenant, ils peuvent demander une dédicace à Eric. Voilà. Et puis de toute façon, pour ceux qui restent, vous signez
voilà,
quelques livres
nous,
après.
Nous ferons à peu près... Donc moi, je vous propose de commencer dans 2-3 minutes. Je ferai une brève explication. Et nous ferons une méditation d'environ 20 bonnes minutes. Voilà.
Mais n'ayez pas peur, ça devrait bien se
mais
passer.
Mais je ne mange personne.
Il n'y a pas de lévitation.
Et tout ira très bien. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.